Chers frères et sœurs et chers amis, nous avons surtout aujourd'hui quelque chose de tout nouveau. Nous allons avoir un très important message, étude qui concerne la prière. Or, j'ai écrit il y a 42 ans 11 manuscrits sur le thème de la prière. Aujourd'hui, sur ce premier CD, vous aurez l'introduction concernant la prière. Je suis persuadé que sans la prière, aucune église peut progresser. Dans l'église, beaucoup font des demandes, mais peu supplient. Oui, peu, on peut dire en conscience que nous devons pas seulement demander, mais aussi intercéder. Beaucoup prient, beaucoup se reposent, mais peu combattent. Beaucoup entreprennent, mais peu intercèdent. Or, toute personne qui ne prie pas est donc inconséquente. Les deux conditions qui sont indispensables à une vie chrétienne dynamique sont la perspicacité et la passion. Ces deux qualités sont générées dans l'intimité de la prière. Le ministère de la prédication n'est ouvert qu'à une poignée de personnes, il est vrai. Mais le ministère de la prière, il est ouvert à tous les enfants de Dieu. Chers amis, il ne faut pas confondre l'action pour l'onction, la fébrilité pour la création et les vibrations pour les réveils spirituels. Le secret de la prière, c'est de prier en secret. Un chrétien matérialiste cessera de prier et un chrétien en prière se détachera du matérialisme. Lorsque nous prions, Dieu écoute les battements de nos cœurs, les lèvres d'âne remuaient, mais on n'entendait pas sa voix, selon 1 Samuel, chapitre 1, versets 12 et 13. Lorsque nous prions dans l'Esprit Saint, des gémissements ineffables sont émis, est-il dit dans Romains, chapitre 8, verset 26. Les dons permettent de bâtir une église, mais ce sont les larmes qui lui donnent la vie. C'est la différence entre l'église moderne et celle des premiers temps. Nous nous soucions de payer, mais eux, ils se souciaient de prier. Lorsque nous avons payé, la place est occupée, mais lorsqu'ils avaient prié, la place était secouée, selon Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Dans le domaine de la prière efficace, personne n'a jamais été perdant. Prions donc, mes frères et sœurs. Oui, prions. Il est un fait que parler de la vie de prière n'est pas très facile ni évident. Tout d'abord parce que nous avons tous entendu parler de nombreux messages sur le sujet et que nous connaissons l'essentiel de nos responsabilités dans ce domaine. Et pourtant, c'est un des domaines que nous avons le plus de peine à mettre en pratique. Ensuite, je suis conscient de mes propres lacunes et de mon besoin de grandir dans cet aspect de ma vie chrétienne. Ainsi, plutôt que de reparler de choses que nous avons déjà sur la prière, que nous savons très bien concernant la prière, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle est, ainsi des différentes formes de prière, etc., j'aimerais aborder la question suivante. Pourquoi étant tous convaincus de l'importance et de la nécessité de la prière, la vivons-nous si peu? J'aimerais donc vous proposer quatre causes essentielles à ce manque de prière. Mais d'abord, quelques remarques préliminaires. Quelqu'un a dit « Nul n'est plus grand que sa vie de prière ». Si nous voulons évaluer correctement ce que nous sommes devant Dieu, il ne faut pas regarder à notre manière de prêcher, à la bonne opinion que les autres se font de nous, mais un regard honnête et objectif sur notre vie de prière nous donnera une bonne idée de ce que nous sommes réellement devant Dieu. Ma vie de prière est le baromètre de ma vraie spiritualité. La Bible nous enseigne et nous exhorte à prier. Elle nous donne une priorité à la prière. L'apôtre Paul disait à Timothée, « J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications et des actions de grâce. » Jésus-Christ n'a pas dit à ses disciples, « Si un jour vous décidez de prier, faites ceci, dites ceci ou cela. » Bien au contraire, il leur a dit « Quand vous priez, c'est-à-dire lorsque vous priez, cela nous entend surtout, ou si vous voulez, cela sous-entend surtout, que nous avons une vie de prière régulière. » Donc, avoir accès à Dieu est un de nos privilèges, car n'importe quand, n'importe où, Dieu est disponible, il est accessible. Mais nous faisons si peu usage de ce merveilleux privilège. Chers amis, voici par exemple un petit exemple qui est assez intéressant. Un homme voulait rencontrer le président des États-Unis. Arrivé à la Maison-Blanche, un garde lui demanda s'il avait un laissez-passer ou un rendez-vous. Mais il n'avait rien. Alors on lui refusa tout simplement l'entrée. Après le changement de garde, il recommença la même démarche, mais en vain. Découragé, abattu, il rencontra un petit garçon qui, voyant sa tristesse, lui proposa de l'aider. Mais l'homme refusa, prétextant que le petit garçon n'était pas capable de comprendre son problème. L'enfant insista et enfin l'homme lui expliqua son désir de voir le président. Alors le garçonnet le prit par la main et l'amena à l'intérieur de la Maison-Blanche. Aucun des gardes ne réagit. Tous deux arrivèrent donc à la porte du président. Le garçon l'ouvrit et dit simplement « Papa, ce monsieur voudrait te parler. » C'est pareil, chers amis, pour nous. Oui, Jésus-Christ nous prend par la main et c'est lui qui nous a ouvert l'accès du ciel pour que nous puissions tout simplement avoir librement ce partage avec Dieu, notre Père céleste. Là où j'ai le plus manqué dans mes responsabilités à l'égard de mes fidèles, disait un pasteur, ce n'est pas tellement dans mon travail pastoral, ni dans la prédication, mais dans la prière. Et c'est certainement la confession de beaucoup d'entre nous qui sommes engagés dans ce ministère. Il est plus facile d'avoir toutes sortes d'activités plutôt que de prendre du temps pour prier. Souvent, nous avançons des excuses pour ne pas prier. Je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé, trop actif. J'ai trop de travail. Mais c'est inexact. Ce n'est pas parce que nous avons trop d'activités que nous ne prions pas, mais c'est parce que nous n'avons pas une vie de prière régulière que nous essayons de compenser par un excès d'activité. C'est donc le manque de prière qui conduit à l'activisme et non l'activisme qui conduit au manque de prière. À ce sujet, j'ai trouvé une preuve indéniable. Lorsque nous sommes en vacances, par définition, nous avons du temps. Il n'y a pas d'activité qui conduit au manque de prière. À ce sujet, j'ai trouvé une preuve, donc, comme je viens de dire, qui est carrément irréfutable. Car les vacances, en définition, devraient nous donner du temps. Mais il n'y a pas d'activité ni d'obligation. Est-ce que nous prions plus que lorsque nous courons à droite et à gauche dans toutes nos responsabilités? C'est souvent durant cette période où nous sommes censés d'avoir du temps, me semble-t-il, que nous prions malheureusement le moins. Luther, quant à lui, il disait « J'ai tellement de travail aujourd'hui que si je veux tout accomplir, il faut que je passe au moins 3 heures dans la prière. » Voyons maintenant ces 4 points que j'ai cités. Premièrement, nous avons le manque de communion permanente avec le Seigneur. Voyez-vous, notre vie de prière ne peut être dissociée de notre vie chrétienne et de notre marche avec le Seigneur. Avec une vie chrétienne superficielle, on ne peut pas espérer avoir une vie de prière profonde. De même, une vie chrétienne authentique et sérieuse avec le Seigneur est incompatible avec une vie de prière qui serait simplement superficielle. Prier, donc, la prière est une vie qui est chrétienne et qui vont de pair. Donc la prière et la vie chrétienne devraient aller de pair. Car si nous voulons avancer dans notre vie de prière, parallèlement, notre vie de tous les jours avec le Seigneur doit ou devrait s'approfondir. Nous sommes appelés à vivre en communion permanente avec le Seigneur, à connaître la présence constante de Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Si, la plupart du temps, Jésus-Christ est absent de nos occupations, nous aurons beaucoup de difficultés à entrer dans la prière. Si nous voulons approfondir notre vie de prière, il faut que notre vie chrétienne, qu'elle manifeste davantage la réalité permanente de la présence de Jésus-Christ. Si nous sommes continuellement en communion avec le Seigneur, nous aurons beaucoup de choses à partager avec lui. Mais si nous vivons séparés de lui, donc séparés de lui la plupart du temps, alors le moment venu de lui parler, là, nous n'aurons rien à lui dire. Un exemple nous aidera à comprendre ce point-là. si nous sommes séparés d'une personne que nous aimons beaucoup et à laquelle nous pensons souvent, nous n'aurons aucune difficulté à lui écrire chaque semaine et à remplir des pages entières. Par contre, nous avons de la peine à remplir, ne serait-ce qu'une lettre par année, à une personne à qui nous devons écrire par devoir. Notre vie de prière et notre vie chrétienne doivent donc connaître une dimension beaucoup plus proche du Seigneur si nous voulons qu'il se manifeste au travers de nous. Deuxièmement, nous avons le manque de conviction réelle quant à l'efficacité de la prière. Nous savons intellectuellement que la prière est efficace, selon Jacques, chapitre 5, verset 16. Mais, dans la pratique, le manifestons-nous? Nous avons beaucoup de difficultés à en être convaincus au plus profond de nous-mêmes. Cela est dû, en partie, au fait que souvent nous n'avons pas eu de réponse à nos prières comme nous l'avions espéré, ce qui, au fond de nous-mêmes, peut produire un doute quant à l'efficacité de la prière. Pourtant, c'est Dieu qui a dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Je répète, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, si nos prières ne sont pas efficaces, c'est notre problème et pas celui de Dieu. La Bible nous donne l'exemple de serviteurs tels que Élie, un homme comme nous, qui avait une vie de prière efficace. Et plus proche de nous, le réformateur John Knox avait une telle vie de prière que la reine d'Écosse craignait plus ses prières que l'armée d'Angleterre. Et Rees Howells, voir le livre Sur la brèche, et Charles Finney racontent que peu de temps avant sa conversion, il assistait aux réunions d'un groupe de prière. Un jour, les membres de la cellule proposèrent de prier pour lui. Il refusa, bien qu'admettant ouvertement son besoin. Or, leur disant que depuis 6 mois, il leur a dit que depuis 6 mois, il avait vu certaines choses, il les avait entendues sans cesse demander des choses et confesser qu'il ne les avait jamais reçues. Alors, évidemment, il ne voyait pas la raison de leur demander de prier puisqu'il ne recevait pas ou jamais de réponse. Voyez-vous, c'est l'incrédulité, on peut bien le dire, de nos cœurs qui est un obstacle majeur à l'intervention de Dieu et à sa réponse. En général, nos prières manifestent peu de vie, d'enthousiasme et peu de conviction. Troisièmement, il y a le manque de vision personnelle du royaume. N'ayons pas peur de dire la vérité. Dans nos vies, nous manquons de vision, d'objectifs et de fardeau. Souvent, je suis frappé du peu de contenu de nos prières. Cela vient certainement du fait que nous n'avons pas la vision du royaume comme l'apôtre Paul. Ce dernier portait les églises sur son cœur. Tout ce qui s'y passait ne le laissait pas indifférent du tout. C'était ses plus grandes joies ou ses plus grandes souffrances. il avait des sujets de prière précis. Pratiquement, toutes ses épîtres commencent par « Je ne cesse de prier pour vous, de rendre grâce pour vous, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. » L'apôtre Paul avait une vision pour ses églises. Chers amis, quelle est notre vision spirituelle? Nous ne sommes pas tous appelés à être des pasteurs et des responsables de mouvements engagés à plein temps dans le ministère. Mais, par contre, nous pouvons tous avoir une vision, un fardeau, un objectif personnel et spirituel pour le royaume de Dieu. Avons-nous, par exemple, la vision de quelques personnes que nous désirons amener au Seigneur? Car sans aucune vision, on n'a pas de sujet de prière. Si nous avions des fardeaux qui viennent du Seigneur, nous irions vers lui en disant « Seigneur, sans toi, ce serait impossible, car j'ai besoin de toi, toi seul pourras les réaliser. » Notre objectif, nos visions, nos buts concrets pour le royaume vont nous conduire dans une vie de prière plus intime et plus intense. Et quatrièmement, nous avons la résistance de Satan. Satan fera tout pour nous décourager, pour nous arrêter par tous les moyens. Il essayera de nous empêcher d'avoir une vie de prière authentique et efficace. Il ne craint pas du tout les gens qui parlent bien et qui font de belles prédications, mais il a peur surtout de ceux qui savent prier et qui ont une autorité spirituelle dans la prière. Il nous propose toutes sortes d'excuses par lesquelles nous justifions ou tout au moins nous tolérons la médiocrité dans notre vie de prière. Il neutralise notre motivation et notre désir d'avancer. Il veut nous empêcher de prendre conscience que notre vie de prière n'est pas satisfaisante et même lorsque nous avons décidé de passer davantage de temps dans la prière, il continue ses efforts pour nous rendre totalement inefficace en nous rendant somnolents, par exemple. Ou alors, il nous distrait par toutes sortes de pensées et de préoccupations, etc. Il y a donc une résistance spirituelle à vaincre et à surmonter pour grandir dans sa vie de prière personnel. Que faire pratiquement pour que cela change? Bon, voici quelques propositions concrètes qui peuvent nous aider. Veillez sur notre attitude. Nous devons veiller quant à notre attitude face à la prière. Si nous sommes satisfaits de notre vie de prière, nous n'avancerons pas. Si, au contraire, nous veillons à ne jamais nous contenter, mais avons une soif continuelle de grandir, alors notre motivation nous entraînera à rechercher davantage la communion de notre Seigneur. Nous deviendrons donc ce que nous désirons être. Peut-être faudra-t-il commencer par demander au Seigneur la soif d'être un être de prière. et nous n'allons certainement pas révolutionner notre vie de prière d'un jour à l'autre, bien sûr que non. Mais si cette motivation est là de manière permanente, elle nous conduira un pas après l'autre dans une croissance dont les résultats seront durables et profonds. D'abord, nous avons la qualité, ensuite la quantité. N'essayons pas de tripler notre temps de prière d'un jour à l'autre, mais engageons-nous à vraiment vivre dans une communion intime les moments de prière que nous avons déjà. Cherchez à rencontrer Dieu, à avoir vécu pleinement ce quart d'heure ou cette demi-heure que nous passons régulièrement avec lui, cela demande un engagement total de nous-mêmes. Premièrement, de notre corps, car physiquement, nous devons prendre une position qui nous stimule et nous aide à résister au sommeil. Prier à haute voix ou à mi-voix est presque indispensable pour ne pas tourner en rond dans notre intercession. Deuxièmement, de notre âme. Nous devons soumettre nos pensées au Seigneur Jésus-Christ et refuser toute distraction. Et troisièmement, de notre esprit. Notre esprit doit se rendre disponible à Dieu pour recevoir ses prières, recevoir sa compassion, son amour et se laisser diriger par lui. Nous devons parler à Dieu comme s'il était à côté de nous, parler à Dieu comme s'il se tenait près de nous. Oui, nous aider à éviter des vaines redites. Nous ne faisons pas comme certains avec le moulin de prière. Et nous devons vraiment communiquer avec lui. Combien de « Ô Seigneur, ô Dieu » et autres paroles inutiles remplissent nos prières. Tout ce remplissage est vain parce que, en quelque sorte, nous envoyons nos prières au ciel, très loin, au lieu de réaliser que Dieu, par Jésus-Christ, est à côté de nous. Il nous écoute et que nous pouvons lui parler comme à un ami. Et pas oublier la discipline. Certes, avoir une vie de prière régulière et authentique demande de la discipline. Et dans ce domaine, il n'y a pas de raccourci. La seule motivation qui nous donnera la force de donner à la prière sa juste place, c'est l'amour. L'amour pour Jésus-Christ. Et parfois, le matin, avant de me lever, je dis « Seigneur, j'ai envie de dormir, mais je t'aime et j'ai besoin en ce moment de communion et d'amour avec toi, parce que tu m'aimes et que je veux t'aimer, je veux me lever maintenant avec le courage qui vient uniquement de toi. » Oui, chers amis, une pensée en conclusion. Une fois dans l'éternité, nous ne regretterons pas ce temps passé dans la présence de Dieu, notre Père Céleste, et nous verrons à quel point cela fut le temps le mieux investi. La prière devrait être un reflet du cœur. Bien qu'il soit tout à fait juste de partager nos besoins, nos sentiments et notre louange avec Dieu, la prière dépasse largement le fait de dire ou de demander. Dans la Bible, les prières les plus précieuses sont toujours l'expression de l'intime communion entre les hommes et Dieu. Par exemple, certains psaumes offrent un indiscret voyage dans les sentiments et l'âme du roi David. Dans ses chants de prière, les aspirations de son cœur seraient, on peut dire, inaccessibles sans ces merveilleux chants de prière. Inaccessibles, j'ai dit, et même perdus. Encore plus intenses sont les prières de Jésus-Christ qu'il nous offre de multiples occasions de mesurer les liens affectifs existants à l'intérieur de Dieu entre le Fils et le Père. Je répète, les prières de notre Seigneur nous offrent de multiples occasions de mesurer le lien affectif existant à l'intérieur de Dieu entre le Fils et le Père. Mesurons donc le privilège extraordinaire que Dieu nous accorde et nous laissons suivre au fil des évangiles l'intime communion de Jésus-Christ dans ses détresses, dans ses joies et dans ses combats. Là, vous pouvez noter Saint Jean chapitre 11, verset 41, ainsi que le chapitre 17, toujours de Saint Jean. Ensuite, Saint Matthieu, chapitre 26, verset 42. Et toujours Matthieu, chapitre 6, verset 6. Et comme le montrent ces exemples, la prière touche les parties les plus profondes de notre vie. Prier, c'est donc ouvrir la porte la plus secrète de notre cœur. Pour développer cet aspect, Jésus-Christ nous recommande même de vivre la prière d'abord dans un cadre d'intimité avec lui. Il est dit dans Saint Matthieu chapitre 5 verset 5, « Pour toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père céleste qui est présent dans tout ce qui est secret, et ton Père qui voit dans ce qui est secret te le rendra. » Saint Matthieu chapitre 5 verset 5. Dans le cadre d'un groupe, partager une prière de cœur profonde et authentique n'est pas une chose très facile à vivre, car malheureusement, nous sommes vite entraînés dans un chemin de superficialité et d'habitude. Aussi, pour discerner et émonder ces mauvaises pratiques, débusquons carrément les ornières qui deviennent nos prières. On peut dire, premièrement, évitons la prière d'apparat. Cela existe. Car pour éviter de trop s'engager ou par timidité, la tentation est assez grande d'user de ces belles prières à la mode dans notre communauté. Leur abondante formule évangélique leur donne un air de valeur sûre. Ne rions pas, car beaucoup de groupes sont construits sur ce type de prière, somme toute sécurisante. Avec l'habitude, le groupe devient vite une espèce de club qui s'enferme dans un est-il agréé officiellement par le groupe ? Tiens, ça devrait bientôt être mon tour. Ensuite, ce sera la sœur Hélène. Et nous finirons sûrement avec Marcel. À la longue, ces rencontres superficielles n'enthousiasment plus personne. Deuxièmement, il y a la prière d'information. Seigneur, sais-tu que... Oh, je pense que... Je voudrais que tu... etc. Voyez-vous, pour certains, la prière est l'occasion de décrire des sujets par le menu en démontrant à Dieu par A plus P la meilleure façon d'intervenir. C'est la prière des journalistes du Seigneur. Bien que prier avec des informations et pour des choses précises soit très excellente, nous sommes rapidement entraînés à faire une liste de propositions pour montrer à Dieu ce qu'il gagnerait à nous écouter. Avec de telles requêtes, la prière communautaire devient progressivement une récolte de problèmes et de solutions lancées à tout vent. Dans le même registre, nous trouvons aussi la prière conseillère qui, subitement, consiste à chuchoter à son frère une parole qu'on n'ose pas lui dire en face carrément. Je répète, parce que c'est vrai. Dans ce même registre, nous avons aussi la prière conseillère qui subtilement consiste, en quelque sorte, à chuchoter à son frère ou à sa sœur une parole qu'on n'ose pas lui dire en face. Par exemple, « Seigneur, je prie pour mon frère qui devrait vraiment comprendre que... Oui, montre-lui qu'il doit plutôt... etc. » À bien y regarder, le Seigneur et l'Amen sont alors inutiles. Car pour vivre des relations saines, mieux vaut parler directement à l'autre sans user du couvert de la prière. Et troisièmement, il y a la prière marchandage. Ah oui, Jacob, il est certainement un de ceux qui a le mieux développé la prière commerciale avec Dieu. Seigneur, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, donc c'est dans ton intérêt comme dans le mien si tu me donnes beaucoup. Genèse, chapitre 28, verset 22. Remarquons pourtant que même en désirant ardemment la bénédiction divine, Jacob reconnaît que Dieu seul en est, ou si on veut, que Dieu seul peut en décider la mesure dans tout cela. Et nos prières n'ont pas toujours ce respect, car nous inversons facilement les rôles. Oui, qui de nous ne s'est pas surpris à considérer le temps, les efforts, les sacrifices mis dans la prière comme des acomptes sur les exaucements à venir. Voyez-vous, nous soulignons bien que la prière n'est pas une balance que l'on remplit à force de temps ou de paroles. Jésus-Christ, lui, il compare même cette pratique à celle des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront peut-être exaucés. Saint Matthieu chapitre 6, verset 7. Ne méprisons donc pas le Dieu d'amour et évitons toute tentation de calculer ce que Dieu nous doit. Du reste, chers amis, il ne nous doit rien, ça vous pouvez me croire. Nous pourrions continuer, à décrire les déformations qui nous entraînent à prier de façon superficielle. Mais la question n'est pas là. Comment pouvons-nous grandir dans l'exercice de la prière, non en quantité, mais sur le plan de son intensité? En observant les distorsions qui touchent nos prières, on remarque rapidement qu'elles manquent toutes d'une denrée très précieuse, c'est l'écoute. Pour entrer dans une dimension de prière renouvelée, nous devons apprendre à intégrer trois dimensions de cette écoute dans notre relation avec Dieu. Premièrement, nous avons surtout l'écoute de Dieu. Je répète, nous avons l'écoute de Dieu. La première écoute nécessaire à la prière est celle qui nous met en relation avec la pensée de Dieu. Car contrairement à la pratique païenne qui cherche à obtenir de Dieu son attention, la prière chrétienne prend racine sur la bonté et la sagesse de Dieu. Il est donc inutile de le convaincre du bien fondé de notre demande ou de marchander un exaucement à force de paroles. Au contraire, la démarche que nous désirons vivre est de permettre à Dieu d'accomplir sa volonté selon cette célèbre parole « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Prier demande donc de percevoir le vouloir du Seigneur dans les situations qui nous environnent. C'est une collaboration familiale avec Dieu dans laquelle nous désirons ardemment la volonté qu'il nous donne de connaître. Pour vivre cette écoute, nous devons chercher à accueillir le Saint-Esprit parmi nous. Pratiquement, lire et partager un texte biblique est un excellent moyen d'implanter notre prière dans la révélation divine, car rappelons-le, la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit Saint, mérite une grande part au milieu de nous. Cette attitude de respect envers ce que donne l'Esprit Saint est aussi valable à l'égard des paroles inspirées de révélation ou de sagesse qui sont données dans le groupe ou l'Église. Plutôt que de passer rapidement d'un sujet à un autre, nous devrions rester à l'écoute et continuer de prier dans la ligne de l'interpellation divine. Remarquez aussi ceci, que l'écoute de Dieu apporte à la prière la précieuse denrée nécessaire à son exaucement, qui est la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans l'écoute, la promesse de déplacer des montagnes par notre foi ne peut jamais se réaliser, selon saint Matthieu chapitre 17, verset 20. Ce seraient même plutôt les montagnes, les sujets de prière donc, qui nous déplaceraient. Cette redoutable inversion se produit lorsque, par exemple, je prie pour un malade en mettant mes attentes dans la guérison, alors que Dieu m'appelle à les mettre en lui. Et cette nuance est importante. Elle explique pourquoi de nombreux chrétiens, après avoir prié, repartent déçus, voire fâchés, de n'avoir pas reçu la réponse qu'ils attendaient. en mettant le Seigneur au centre par l'écoute, nous n'attendons pas premièrement le miracle, mais sa présence. Cette attitude est moins crispante et beaucoup plus efficace. Elle nous centre sur Jésus-Christ et nous ouvre à la réponse qu'il veut nous donner. Deuxièmement, nous avons l'écoute de soi. Il peut paraître étonnant de mettre l'écoute intérieure comme la deuxième clé capable de renouveler notre prière. Pourtant, dans la recherche d'une expression intime avec Dieu, notre état personnel joue un rôle considérable. En déversant les sentiments de notre cœur dans la prière, nous laissons Dieu agir dans les parties les plus secrètes de nos vies. Par exemple, à la place de demander hypocritement et en grinçant des dents que le Seigneur bénisse une personne que nous n'aimons pas, il vaudrait mieux avouer honnêtement qu'on a envie de l'étrangler. Cette authenticité, chers amis, peut évidemment surprendre. Elle est pourtant pratique, une pratique courante chez les hommes de la Bible, qui ne cherchaient pas du tout à masquer hypocritement leur cœur devant Dieu. Notez par exemple le psaume 143, verset 12, ainsi que le psaume 139, verset 21. En dévoilant nos pensées, nous faisons de notre prière un cri du cœur qui aspire à être comblé et transformé par son Saint-Esprit. Peu à peu, cette transformation de notre être intérieur permettra aux pensées divines de remplacer nos conceptions humaines. Et troisièmement, il y a l'écoute des autres. Dans le cadre d'un groupe de prière, la diversité des participants est une mine d'or que nous pouvons exploiter en nous écoutant les uns les autres. Et cette mise en commun devrait permettre à chacun de prier selon son appel, afin qu'au sein du corps de Christ, rassemblé, le cœur de Dieu puisse parler. Ainsi, pour un même sujet, l'éclairage de chacun mettra en lumière une partie de la volonté de Dieu. L'un exprimera la passion pour le salut, une autre personne au cœur de berger sera plus sensible aux souffrances humaines. Une autre aura une parole de sagesse, une révélation, une proposition d'action, ou encore une parole de la foi et de l'autorité, etc. Pour autant que chacun écoute le mouvement de l'Esprit-Saint, les rencontres de prière peuvent devenir des sources inépuisables de richesses spirituelles, car plus nous prendrons connaissance de la volonté de Dieu, plus nous la désirerons. Désirer cette volonté de tout son cœur et de l'exprimer, c'est cela, la véritable prière. Et en effet, voyez-vous, plus nous connaîtrons de notre face à face avec Dieu, en attendant, voyez-vous, nous entrerons ensuite et nous sortirons. Là, vous pouvez noter Apocalypse 3, verset 12. Je crois que je pourrais répéter, car un jour, chers amis, nous devrons certainement plus sortir, selon Apocalypse 3, 12. Et de notre face à face avec Dieu. Mais en attendant, évidemment, nous entrons et pour le moment, ensuite, nous sortons, c'est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ faisait de même. Il nous a montré la grande importance que la prière avait pour lui. En vivant une vie de prière, aussi bien de nuit, rappelez-vous, que de jour, et en toutes circonstances, dans tout choix ou événement de sa vie, Jésus-Christ se retrouvait premièrement avec le Père, car la véritable prière nous amène face à face avec Dieu le Père. La solution a été donnée. Pour prier avec efficacité, il faut tout d'abord pénétrer dans la présence de Dieu, le rencontrer comme étant notre Sauveur et comme notre Seigneur et comme Dieu, comme Père et comme notre ami. Or, Jésus-Christ s'adressait à Dieu comme à son Père. En théorie, nous sommes tous d'accord pour dire que prier signifie parler avec Dieu, avoir un dialogue avec lui. Pourtant, il nous arrive parfois de réciter nos prières sans même pénétrer dans la présence de Dieu. Alors, à qui parlons-nous? Parlons-nous au plafond ou dans le vide? Dieu n'est pas abstrait, il est une personne. C'est un être spirituel, et pour cette raison, nous devons le rencontrer dans l'esprit, ce qui veut dire avec notre âme et notre esprit, par et avec le Saint-Esprit. Nous devons donc premièrement pénétrer dans sa présence si c'est à lui que nous adressons nos prières. La prière n'est pas un monologue ni un exercice d'autosuggestion. Prier, c'est dialoguer avec le Seigneur dans la foi et sous l'influence de son Esprit Saint. Donc, c'est échanger un peu de ce qu'il est contre un peu de ce que nous sommes pour coller davantage à ce qu'il désire de nous. L'acte de prière est donc un moment de l'âme vers Dieu. C'est un mouvement de notre âme vers notre Père céleste. C'est le dialogue d'un enfant avec son Père. Crier très fort et de hurler pour qu'il nous entende, c'est prouver que nous ne sommes pas encore pénétrés de sa présence et que nous le considérons tellement lointain que nous devons nous époumoner afin que notre voix le rejoigne. Or, ce dialogue peut se faire dans l'intimité, et même sans aucun bruit. Il peut devenir un dialogue de regard et de cœur. Le regard de Dieu est toujours chargé d'une profonde tendresse. À quelqu'un qui lui demandait ce qu'elle disait à Dieu lorsque elle ne dormait pas certaines nuits, une personne de prière, c'était une sœur carmélite. Elle a répondu, « Je ne lui dis rien, car je l'aime tellement. » En effet, au travers d'un regard, les yeux dans les yeux, on peut exprimer dans le silence beaucoup d'amour, comme cette sœur carmélite. Toutefois, cela ne signifie pas que nous devons, oui, que nous devons absolument toujours prier en silence. Non, nous avons droit à la diversité. Et dans cette communion des êtres, Dieu échange notre orgueil contre son humilité, notre égoïsme contre son amour, notre misère contre sa richesse, notre crainte contre son courage etc. Nous sommes donc tous conscients de l'importance de ce type de prière dans notre vie chrétienne. Il s'agit d'un magnifique privilège accordé par Dieu aux hommes. Ayant considéré ce qui précède, il n'est assurément pas exagéré de parler de redécouverte de la prière. Pendant tant d'années, la prière a été pratiquée comme quelque chose d'irréel, même si à force de dire toujours les mêmes choses, nous avons réussi à apprendre par cœur le Notre Père. Je ne dis pas qu'elle n'est pas inclue dans nos exercices du matin, mais que, en principe, souvent, ni l'esprit ni la foi n'y participent. En termes populaires, on peut dire qu'elle ne va pas plus haut que le plafond de la pièce où nous nous trouvons. En outre, ce genre de prière ne reçoit aucune réponse si nous la faisons en somnolant ou par répétition, par habitude. Elle nous fatigue et nous finissons, je crois, soit par nous contenter d'une prière monotone et sans conviction, ça peut arriver, soit par nous lasser même de la stérilité d'un tel procédé. N'oublions jamais, chers amis, que sans la foi, nous ne plaisons pas à Dieu. Considérons donc à présent la foi qui est un élément de la prière. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières, eh bien nous devons les présenter arrosées de toute la foi de notre âme et de notre esprit. À toute personne l'ayant approché, le Seigneur Jésus-Christ a indiqué la foi comme condition pour obtenir une réponse positive. Et c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notez Saint Marc, chapitre 11, verset 24, et dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 50, il répond à Jaïr, il dit « Ne crains pas, crois seulement et ta fille sera sauvée. » Dans Saint Marc, chapitre 5, verset 34, il dit à une femme qui souffrait de perte de sang « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Je pourrais encore continuer avec tous les autres cas signalés dans les Saintes Écritures, notant encore les aveugles auxquels le Seigneur a répondu « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Saint Matthieu, chapitre 9, versets 28 et 29. Demandons avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Notez Jacques, chapitre 1, versets 6 et 7. Il est donc nécessaire d'avoir une attente inébranlable et pleine de confiance, et cela ne provient pas de la croyance en une doctrine religieuse, mais de mettre toute notre foi en Dieu. Approchons-nous de Dieu et mettons notre confiance dans sa miséricorde, dans celui qui est près de nous, qui est à notre côté, dans celui qui nous comble de tout bien, oui, dans celui qui nous aime dans notre ami, car il est vrai que Dieu est amour. Il a en effet donné ce qu'il avait de plus précieux pour notre salut. Il s'est donné lui-même. Il nous a aimés plus que lui-même. Comment pourrions-nous douter de son désir de nous contenter si ce que nous lui demandons est bon pour nous? Combien d'entre nous cherchons à faire naître la foi au travers d'un effort de volonté et affirmons ensuite que Dieu a entendu nos prières? Mais ce n'est pas cela, la foi. Et combien de personnes seront déçues et détruiront ainsi la naissance de leur foi? Car pour avoir la foi, il faut lire la parole de Dieu. La foi vient d'entendre la parole de Dieu, selon Romains chapitre 10, verset 17. Il nous faut donc découvrir ce que Dieu a promis en sachant qu'il est la vérité. Saint Jean chapitre 14, verset 6. Il faut donc que notre croyance soit couverte par une garantie qui est la parole de Dieu. Si nous voulons prier avec foi, nous devons donc trouver une promesse dans la sainte parole de Dieu et y appuyer notre foi. La foi vient aussi de l'Esprit Saint qui connaît la volonté de Dieu. Il faut donc que nous prions par l'Esprit Saint pour être conduit dans la prière selon la volonté de Dieu et avoir ainsi l'assurance que nous serons exaucés si nous n'avons pas une promesse de la parole de Dieu ou une indication claire de l'Esprit Saint, en général une paix profonde, alors il ne s'agit pas d'une vraie foi. Et nous serons déçus si nous ne recevons rien. Mais si nous croyons, si vous voulez, si nous ne croyons pas à une chose qui nous a été promise par la parole de Dieu, c'est ce que je voudrais dire, ou que l'Esprit Saint a bien confirmé avec sa paix, alors, s'il n'y a pas cela, c'est que nous doutons de sa sainte parole et nous disons en quelque sorte que Dieu est menteur parce que nous doutons de sa sainte parole. La seule chose qui a empêché Jésus-Christ d'accomplir des miracles à Nazareth, rappelez-vous, a été l'incrédulité. Je répète, c'était à cause de leur incrédulité des gens de l'endroit. Notez et lisez Saint Matthieu, chapitre 15, verset 58, à ce sujet. Chers amis, il faut parfois beaucoup de persévérance. Dieu ne nous répond pas toujours à la première requête. En agissant de la sorte, il veut nous apprendre la persévérance dans la prière. À la femme cananéenne, dans Saint Matthieu, chapitre 15, verset 28, Jésus-Christ n'accorde pas tout de suite sa grâce, mais il apprécie l'audace, si vous voulez, l'audacieuse insistance de cette femme. Il a dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Voici une belle leçon pour tous ceux qui aujourd'hui affirment qu'une seule prière pourrait suffire. Grâce à Dieu pour toutes les fois où il nous exauce à la première requête. Alléluia. Mais Dieu a un plan pour nous. Il veut faire de nous des hommes et des femmes de prière. Et croyez-moi, cela n'arrivera qu'avec la persévérance. Souvenez-vous des paroles que Jésus-Christ a racontées, je crois, dans Saint Luc, chapitre 11, versets 5 et 8, et dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Elles contiennent un enseignement fondamental. Il est dit persévérer dans la prière jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à l'exaucement. Ne nous fatiguons pas, frères et sœurs. N'agissons pas comme ceux qui laissent lassés. Ils étaient lassés de prier. Ils étaient lassés sans recevoir de réponse. C'est pour ça qu'ils avaient un peu de découragement et qu'ils ont dit que de toute évidence, la requête ne devait pas être conforme à la volonté de Dieu et humblement, ils s'y soumettaient. Prier avec persévérance pour une requête appuyée sur la parole de Dieu ne relève pas de l'incrédulité, pas du tout. C'est la seule, la véritable obéissance à la volonté de Dieu. Et Dieu honorera la prière patiente et persévérante. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17, nous invite donc à prier sans cesse. Combien de croyants pensent aujourd'hui que chaque prière doit se terminer par la formule magique « Au nom de Jésus ». Mais l'Éternel ne veut pas que nous fassions de la magie. Si j'entre dans une banque avec un chèque signé par moi et que j'en demande le paiement en mon nom, il sera honoré à condition, bien entendu, que j'ai de l'argent dans cette banque. Autrement, il ne le sera pas. Mais si par contre, j'entre dans la même banque avec un chèque qui est signé par une tierce personne, c'est au nom de cette personne que j'en demande le paiement. Et peu importe que je détienne ou non des fonds dans cette banque. Il suffit donc que la personne signataire en possède, elle, de l'argent dans cette banque. Ainsi, lorsque je m'adresse à la banque du ciel, si je veux recevoir quelque chose, je dois donc me présenter muni de chèques signés par lui. C'est la seule manière pour que mes requêtes soient exaucées. Et quand je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis donc conscient de ne rien mériter par moi-même, mais je me présente au Père Céleste par les mérites de Christ. Je répète, je me présente à mon Père Céleste par les simples mérites du Seigneur Jésus-Christ. Donc, appuyons-nous sur la rédemption que Jésus-Christ a accomplie et la révélation qu'il nous a donnée du caractère de Dieu. Ce que vous demanderez au Père, il vous donnera, il vous le donnera en effet en mon saint nom, selon Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 23. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Évangile de Jean 14, verset 14. Oui, prier par l'Esprit Saint, c'est très important. La prière peut revêtir plusieurs aspects. Elle peut être l'action de grâce lorsque nous remercions Dieu de nous avoir exaucés. Lorsque le Seigneur nous exauce, n'agissons pas comme nos neuf lépreux de l'évangile de Jean, non, de l'évangile de Saint-Luc, au chapitre 17, verset 11, 9 à 11. Je répète, lorsque le Seigneur nous exauce, donc n'agissons pas comme ces neuf lépreux qui sont décrits dans Saint-Luc, chapitre 17, et je crois verset 9 à 11, qui ne sont même pas, et ça c'est grave, qui ne sont même pas revenus remercier celui qui les avait bénis. Ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais faire. Pensez-vous qu'ils aient ultérieurement, je vous pose la question, pensez-vous qu'ils aient ultérieurement été encore bénis? Car un seul n'a pas oublié d'exprimer toute sa reconnaissance au maître. Et il s'est même prosterné devant lui. Gloire à Dieu. Voyez-vous, la prière peut être de la louange lorsque nous célébrons sa sainte majesté, la bonté, la divinité ou la puissance du Seigneur. Le psalmiste disait « Sa louange sera toujours dans ma bouche » psaume 34, verset 2. Et toujours dans le livre des psaumes, nous trouvons l'exhortation « Allons au-devant de lui avec des louanges » psaume 95, verset 2. « Entrez dans ses portes avec des louanges » psaume 100, verset 4. « Exaltez le nom de Dieu referme une grande puissance d'exalter le nom de notre Père Céleste. » Donc, l'Éternel est le Saint qui siège au milieu de son peuple. Psaume 22, verset 4. La prière peut être l'adoration. L'adoration est la forme la plus élevée de la prière. Et notre cœur bat à l'unisson avec le cœur de Dieu pendant que sa présence nous envahit et remplit toute la place autour de nous. Il n'existe que Dieu et nous devant lui sur son sein. Il est vraiment Dieu. Plus rien n'existe. Il est celui qui est de toute éternité. La prière peut être aussi la confession. Lorsque repenti de notre péché et ayant décidé d'y renoncer, nous nous présentons à Dieu pour lui demander le pardon et le lavage de nos iniquités. Elle peut aussi être encore de supplication, surtout quand nous avons besoin d'aide et de délivrance. Dieu aime constater que nous dépendons de lui en toutes circonstances. Il attend que dans chaque occasion, nous nous adressions à lui qui est un Père plein d'amour et prêt à nous délivrer. Elle peut être encore l'intercession quand nous prions pour les autres. Nous avons donc la tâche de prier pour les autres, qu'ils soient parmi ceux que nous aimons ou même parmi nos ennemis. Selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 44, et la première épître de Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2. La prière est la part humaine dans le miracle divin. Voulons-nous récolter? Alors semons. Voulons-nous obtenir? Alors demandons. L'heure de notre rendez-vous avec Dieu est arrivée. Ne manquons pas le dialogue divin. Chers amis, avant de terminer par la prière, mon cher ami, rappelle-toi, si tu ne gardes pas consciemment le contact avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit, tu es comme une lampe comme le téléphone, comme ton portable, dont on a débranché le système. Alors, tu es éteint, sourd et muet. En plus, tu es coupé du monde et même du royaume des cieux. Je répète, rappelle-toi ceci. Si tu ne gardes pas consciemment le contact avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit, tu es comme une lampe, comme le téléphone ou ton portable, dont on a débranché le système, alors tu es éteint, sourd et muet. Et en plus, tu es coupé du monde et du royaume des cieux. Nous allons maintenant terminer par la prière. Mon Dieu, je voudrais me consacrer à toi. Oui, je voudrais me recueillir, je voudrais être fort. Mon Dieu, je sens qu'en toi seul est la vérité. Christ est la vérité. Nous aimons le Christ. Mon Dieu, le monde sera heureux et beau quand le Christ régnera. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de souillure, mais de l'or et du cristal, et les larmes des saints seront devenues des perles. Ô mon Dieu, que te dire en ma sincérité? Tu es la force, fortifie-moi. Tu es la paix, pacifie-moi. Mon Dieu, que nos vies soient devant toi comme un tapis étendu sur ton chemin, afin que tu puisses y passer. Quand nous voyons les hommes te pressentent, quand nous, ils découvrent Christ. Mon Dieu, quand toi s'opèrent les synthèses, se réparent toutes les erreurs, s'accomplissent tous les longs, patients, obscurs exploits, qu'en nous, tu sois exalté, qu'en nous, Christ soit salué, et que les âmes vivent et soient sauvées. Amen. Et chers amis, merci pour la patience et pour l'intérêt que vous portez à ces études. Comme je l'avais dit, nous commençons, et ceci est donc le premier CD sur le thème de la prière. Mais il y en aura beaucoup, beaucoup encore, car au fond, ce que beaucoup de chrétiens ont oublié, c'est que la prière est la chose la plus importante de tout concernant notre vie. Soyez bénis et à bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.